بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للناس أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا أن نلتقي بهذه الأمسية الطيبة ليلة الاثنين 24 من شهر صفر من سنة 34 بعد ال100 والرابعة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق ل كم اليوم؟ 6 من الشهر الأول سنة 2013 بفضيلة الشيخ عبد الهادي جودي إمام وخطيب مسجد السنة بمرسيليا. يسرنا أن نلتقي به في هذه الليلة ليشرفنا بما تيسر حول موضوع التوحيد، حول موضوع العلم والعلماء. ولا شك أن هذا الموضوع في غاية من الأهمية، فإن الإنسان بحاجة ماسة إلى أن يأخذ هذا الدين وهذا العلم من معينه الصافي. كيف لا؟ والناظم يقول: علم العليم وعقل العاقل اجتمعا، من ذا الذي منهما قد احرز الشرف؟ فالعلم قال: انا احرزت غايته، والعقل قال: انا الرحمن بي عرف. فاصبح العلم اصاحا وقال له: باين الرحمن بقرانه اتصفا. فبان للعقل ان العلم سيده، فقبل العقل راس العلم وانصرفا. اترك المجال الشيخ ليحدثنا، سيفرد الكلمة من أولها إلى آخرها بالعربية لأنه متعب نوعا ما، ونكتب ما تيسر حتى نترجم لكم المعاني الموجودة. دونك أنا في ديك سوسوار دونكم خير الشيخ عبد الهادي جودي إمام سامونار دو لا موسكي سنة مرتي وكي نو بارل دا سوجي كي امبورتون ان سوسوار دو ديمونش 24 Ce soir du dimanche 23 septembre 1434, qui correspond au 6 janvier 2013. Le sujet choisi, c'est les savants, l'importance de la science. Donc il y a des frères qui sont venus un peu partout, des frères d'ici, de Besançon, des frères de Montbéliard, de Belfort, de Mulhouse, d'autres villes. Des autres sont en frère, ils sont venus aller pour prendre, pour s'instruire, pour apprendre également les sœurs. Donc le Cheikh Inch'Allah, il va faire son cours en une seule fois et ensuite on va faire la traduction parce qu'il est fatigué Inch'Allah.
Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوتي في الله، إنها لفرصة سعيدة نلتقي فيها على ذكر الله تعالى وطاعته، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أخوتي في الله، موضوع المحاضرة كما سمعتم فضل العلماء، من المعلوم أن الناس يتفاضلون في المال والمنصب والجاه، وهذا من حكمة الله تعالى فيهم، كما قال جل وعلا: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. قيل في تفسيرها أي فضلنا بينهم، فمن فاضل ومحبول ورئيس ومرؤوس، وقيل بالحرية والرق، فبعضهم مالك وبعضهم مملوك، إلى غير ذلك من الأقوال. واختلاف طبقات الناس في هذه المراتب لا يشفع لأهل الرفعة منهم أن يكونوا أفضل ممن سواهم، لأن تلك الرفعة وقتية دنيوية تزول بزوالها. وفي الغالب أن نفعها يكون مقصورا على صاحبها ومن يعول، أما الرفعة الحقيقية التي تبقى مع صاحبها في الدنيا والبرزخ والآخرة فهي رفعة العين، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: مدح الله العلماء في هذه الآية، وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ومعنى أنه يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم. وقال الإمام الأزري رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقهم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان ومكان، في كل زمان وأوان رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جليل، ورثة الأنبياء الحسان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يلكن الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزير، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم وتحيروا، وإذا أصفر عنها الظلام أبصروا، إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. وعقد الإمام القزويني رحمه الله تعالى في كتابه مفيد العلوم بابا سماه حقوق العلماء، قال في أوله: اعلم أن درجة العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكرامتهم عظيمة ولحومهم مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها سقم. وأوصيكم معشر الناس والملوك بالعلماء خيرا، فمن عظمهم فقد عظم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أهانهم فقد أهان الله تعالى ورسوله. أولئك ورثة الأنبياء وصفوة الأولياء، شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام: إن الله سبحانه وتعالى شرف أهل العلم ورفع أقدارهم وعظم مقدارهم، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، بل قد اتفق العقلاء على فضيلة العلم وأهله وأنهم المستحقون شرف المنازل، وهو مما لا ينازع فيه عاقل. واتفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة أفضل العلم وأعظمها أجرا عند الله جل وعلا يوم القيامة. وبكل حال عباد الله، فمنزلة العلماء أسمى المنازل وأعلاها، وشواهد ذلك في الكتاب والسنة كثيرة جدا، فهم أشد الناس وأكثرهم خشية لله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة بالعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوث بالأسماء الحسنى، وكلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. ومن فضائلهم وخصائصهم أنهم من خير البرية، لأن من كان خاشيا لله جل وعلا كان من أحق الناس بوصف الخيرية. قال ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى: فاقتضت الآيتان إنما يخشى الله من عباده العلماء وقول تعالى أولئك هم خير البرية أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية. ومن خصائصهم وفضائلهم أن منزلتهم من أرفع المنازل وأزكاها، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن خصالهم عباد الله أنهم هم المرجع عند السؤال والمعضلات، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الشيخ الثعلبي رحمه الله تعالى: وعموم هذه الآية فيها مدح لأهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم، وأنه بذلك يخرج الجاهل من التبعة. ومن خصالهم أنهم أعرف الناس بالخير ومفاتحه وبالشر ومغالقه، كما قال جل وعلا: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ومن خصالهم أن الله جل وعلا خص شهادتهم دون غيرهم من البشر، فقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: أحدها استشهاد دون غيرهم من البشر، والثاني اقتران شهادتهم بشهادته، والثالث اقترانه بشهادة الملائكة، والرابع أن في ذلك ضمن هذه الآية تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله جل وعلا لا يستشهد من خلقه إلا بالعدول. الخامس أنه وصفهم بكونه أولي العلم، وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه وليس بمستعار لهم. السادس أنه سبحانه وتعالى استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم الملائكة والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا. السابع أنه استشهد على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. والعظيم القدر إنما يستشهد على العظيم أكابر الخلق وسادتهم. الثامن أنه سبحانه وتعالى جعل شهادتهم حجة على المنكرين، فهم بمنزلة أدلته وبراهينه على توحيده. التاسع أنه سبحانه وتعالى أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن الملائكة، ولم يعقب شهادتهم بفعل آخر غير شهادته، وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته، فكأنه سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة، فكان والشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليما، وهم الشاهدون بها له إقرارا واعترافا وتصديقا وإيمانا. العاشر أنه سبحانه وتعالى جعلهم مؤدين لحقه عند عباده لهذه الشهادة، فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به، فثبت الحق المشهود به، فوجب على الخلق الإقرار به، وكان ذلك غاية سعادة في معاش ومعادهم. وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره، وهذا فضل عظيم لا يدري قدره إلا الله جل وعلا. وكذلك كل من شهد بها على شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضا. فهذه عشرة أوجه في هذه الآية، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن خصائصهم أيضا أنهم يعقلون من مراد الله جل وعلا ما لا يعقله غيرهم. قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال سبحانه وتعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن خصائصهم أن الله جل وعلا أمر بطاعتهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أولي الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولي الأمر صنفين: العلماء والأمراء. فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. ومن خصائصهم أن الله تعالى نفى التسوية بين أهله وغيرهم، فقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي فضلهم قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وفي رواية: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد وأهل السنن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. وهذا الحي إخوتي في الله من أعظم الأحاديث وأشهرها في فضل العلم والعلماء لما فيه من عظيم الخصال لأهل العلم، وقد أكثر أهل العلم من الكلام حول هذا الحديث فيما تعلق بفضل العلم والعلماء، بل قد أخرجه بعضهم بشرح مستقل كالإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، ومما قال بعض أهل العلم حول هذا الحديث إنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتها، وإنه يتنافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ وقد اختلف في معنى قول صلى الله عليه وسلم في وضع الملائكة أجنحتها، لا، فقيل التواضع وقيل النزول عنده والحضور معه وقيل التوقير والتعظيم، لا، وقيل معناه تحمله على بلوغ مقصده. ولعل من ثمار ذلك أن تنسو له البركة، أن تنسو له البركة لبلوغ مقاصده وقضاء حوائجه. وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم أي العلماء، فقيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد ثبت في الأصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء، فكما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على الأحكام بقول وفعل وإقراره، كذلك وارثوه يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن خصالهم أن في بقائهم مصلحة للأمة وفي ذهاب مكتبة وقيمة. جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه يقول صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله لا ينزل العلم من صدور العلماء انتزاعا أو من صدور الناس انتزاعا، ولكن ينزعه بقبض العلماء حتى لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن خصالهم أنهم أولى الناس بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، ومن خصالهم أنهم المبلغون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل هاتين الخصلتين قول صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه ثم يبلغه، أخرجه الترمذي. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقول صلى الله عليه وآله وسلم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، تشبيه لحال القمر، فإن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالم، وهذه حال العالم. وأما الكواكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه، وهذا حال العابد الذي يضيء نوره، الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره، وإن جاوز نور عبادته غيره فإنما يجاوزه غير بعيد، كما يجاوزه ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة. وقال أيضا في التشبيه المذكور لطيفة أخرى، وهو أن الجهل
أن شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجهل بالليل في ظلمته، والعلماء والعباد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة، وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب. فخصال العلماء كثيرة وكثيرة جدا، لا يكفي يعني الوقت لذكرها جميعا. ففي ما ذكرنا الخير الكثير.
Donc le chef dit, c'est une bonne occasion mes frères en Allah de se rencontrer aujourd'hui, une heureuse occasion de se rencontrer sur l'évocation d'Allah et sur son obéissance. Et il est venu dans le texte, il n'y a pas des gens qui se réunissent dans une des maisons d'Allah pour y réciter le livre d'Allah et se l'enseigner réciproquement, sans que ne descende sur eux la paix divine, sakina, que la miséricorde ne les couvre, les anges ne les entourent et qu'Allah ne les mentionne parmi ceux qui se trouvent auprès de lui. Louange à Allah qui nous a accordé ce bienfait, et si ce n'était lui, nous n'aurions pas eu accès à ce bienfait. Le titre de cette intervention est le mérite des ulama, le mérite des savants. Il est connu que les gens n'ont pas le même degré, n'ont pas la même place, aussi bien dans leur patrimoine que dans les postes qu'ils ont les uns les autres, que dans différentes notoriétés qu'ils ont, al-mal ou al-mansib ou al-jah. Et ceci fait partie de la sagesse d'Allah. Conformément à un verset qu'il y a dans la sourate numéro 43, ورفعنا بعضهم بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. Ce verset-là, nous avons élevé les uns et les autres en degré. Il a été dit dans l'explication de ce verset, nous avons élevé les uns et les autres en degré, c'est-à-dire dans le verset 32 de la sourate 43, c'est nous qui avons le sens, c'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans les présents et qui les avons élevés en grâce les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. Élevés en grâce, il a été dit qu'il y en a un qui est plus méritoire qu'un autre, et il a été dit qu'il y en a un qui est président et l'autre qui est présidé. Il a été dit qu'il y en a un qui est libre et un qui est esclave. Il a été dit qu'il y en a un qui est pauvre et un qui est riche, etc., le type d'opposants que l'on vient de citer. Cela n'engendre pas que certains sont plus hauts que les autres. Ça ne veut pas dire qu'un président qui est présidé, il est meilleur que les autres. Et s'il est meilleur, il est plus élevé seulement ici-bas. Et ça se limite seulement à sa personne et à sa famille. Mais la vérité à ce propos-là, la réelle, le réel surplus, le réel degré de valeur qui est ici-bas, dans la vie, le barzakh, c'est-à-dire la vie dans la tombe, et dans l'au-delà, c'est à travers la science. Conformément au verset dans la sourate numéro 58, le verset numéro 11, le sens, Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Sourate 58, c'est le Mujadala, verset numéro 11. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, à propos de ce verset, Allah a fait l'éloge des savants, des gens de science. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala a dit, Allah a favorisé et a élevé en degré ceux qui ont cru l'iman, qui avaient l'iman et qui avaient de la science, un degré plus élevé que ceux qui ont l'iman seulement et ont cru mais qui n'avaient pas forcément de science. L'imam al-Ajuri rahimahullah ta'ala a dit, Allah a spécifié de ses créatures ce qu'il a voulu et leur a accordé l'iman. Et il a spécifié de ses créatures ce qu'il a voulu et il leur a donné la science, la connaissance. Il les a élevés, il leur a accordé la science, la connaissance, et il les a élevés sur le reste des croyants. Et ceci, à toute époque et à tout endroit. À travers eux, on connaît ce qui est licite de ce qui est illicite. À travers eux, on connaît ce qui est véridique de ce qui est mensonger ou tort. À travers eux, on connaît ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce sont eux qui détiennent le degré le plus élevé. Ce sont eux les héritiers des prophètes. les boissons dans l'eau demandent pardon en leur faveur. Leurs assises sont remplies de sagesse. Ils sont meilleurs que les adorateurs. Ils sont plus élevés que les gens qui sont à tête. Leur vie est un gain et leur mort est un malheur. On ne craint pas leur mal. Celui qui reste dans leur compagnie tirera exhortation et se remettra en question. Celui qui leur obéit sera sur la droiture. Et celui qui leur désobéit sera voué à la perdition. Les juges reviennent à eux et à leurs décrets dans leurs paroles. Ils sont les lampes qui illuminent les contrées et les pays. Ils sont ceux qui ont provoqué la colère du diable. Leurs cœurs sont remplis de vérité, de vie, et à travers eux, on tire cela, la vérité et la vie du cœur. Etc. D'autres caractéristiques qu'a cité l'imam Al-Ajurri, rahimahullah ta'ala. L'imam Tadwini, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre, le fils de l'ulum, qui est profitable du savoir, des sciences, des connaissances, chapitre droit des savants. Il dit, sache que le degré des savants est comme celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils ont leur karama est grande, leur noblesse, leur valeur est grande. Celui qui sent leur viande tombe malade, et celui qui la mange, eh bien la maladie s'accroît. Celui qui les valorise a valorisé Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui les avilit aura avili Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les héritiers des prophètes. Ce sont la bonne plantation, le bon arbre. Et l'imam al-Shatibi rahimahullah dans l'Ihtisam, son livre l'Ihtisam a dit, Allah a honoré les savants. Et on a à travers cela, le Coran qui témoigne de cela, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'unanimité à ce propos. Et les gens dotés de raison témoigneront de cela. Et la connaissance de la charia, de la législation, est la meilleure des connaissances. Et la place des ulama, des savants, est la plus élevée. Et les témoins à ce propos sont très nombreux. Ce sont ceux qui craignent le plus Allah. Ce sont ceux qui craignent le plus Allah. Conformément au verset numéro 28, dans la sourate numéro 35, à la fin, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit, Al-Ulama, ce sont ceux qui le connaissent réellement. Plus on le connaît, plus on le craint. Et ce sont eux les meilleurs des créatures. Tel qu'a cité Ibn Jama'a al-Kinani dans un de ses ouvrages, il a dit à propos de ce verset qui est dans la sourate numéro 35, par le créateur, verset numéro 28, il a dit si on réunit ce verset avec le verset qui est dans la sourate al-Bayyina 98, Khayr al-Bariya, verset numéro 6, il a dit on verra que les ulama sont les meilleurs de la création, puisque ce sont eux ceux qui croient et ce sont ceux qui craignent Allah également. Ils ont réuni les deux caractéristiques. Donc ils ont le degré, la valeur la plus élevée. Conformément au verset, dans la sourate numéro 58, le verset numéro 11, la fin du verset, Allah élèvera le sens, Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Et ce sont vers eux que l'on revient lorsqu'on a des interrogations ou des problèmes. Tel qu'a cité l'imam Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala, il dit la généralité de ce verset fait éloge aux gens de science. Et il y a également dans ce verset le fait qu'Allah fait leur éloge, leur recommandation. Et il dit que ce sont des gens de droiture et d'équité. Également, ils font sortir l'ignorant des différentes mauvaises conséquences qui peuvent le suivre en l'éclairant. Donc, ils ouvrent les portes de bien et ferment les portes de mal. Dans un verset, le sens est ceux qui ont reçu la science ont dit, malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour ceux qui ont, pour celui qui croit et qui fait de bons actes. Et dans un verset dans la sourate numéro 3, Al Imran, dans le verset numéro 18, on a un verset pertinent à ce propos, le sens, Allah atteste, et aussi les anges et les dotés et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a dit dans ce verset, Allah a cité les savants et a cité leur témoignage sur la chose la plus valorisée et la plus importante qu'il a pu citer. Il les a cités, premièrement, il a cité les ulama, les savants, il n'a pas cité autres. Deuxièmement, il a comparé leur témoignage avec le sien subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, il a cité et comparé leur témoignage avec celui de ses anges. Quatrièmement, il a fait leurs éloges et les a recommandés. Cinquièmement, les gens de science, toutes choses demandent pardon en leur faveur. Sixièmement, il y a le témoignage d'Allah, celui des anges, et ajouté à cela, celui des savants, et pas plus que cela. Septièmement, le point cité est le point le plus important qui est le tawhid. Il a témoigné sur quoi? Sur son unicité. Donc, c'est un sujet qui est d'une grande valeur. Et il ne va utiliser que des gens de grande valeur pour témoigner de cette chose-là. Huitièmement, ce sont un argument sur les gens qui réprouvent ou qui rejettent cette chose-là. Neuvièmement, afrad al-fi'l. Le verbe est au singulier. Shahida Allahu. Shahida, c'est un verbe qui est au singulier. Voilà, mais il n'a pas mis un autre verbe après par la suite, mais il a tout raccordé à cela. Shahida Allahu, annahu la ilaha illa huwa, wal malaikatu wa ulul ilm. Donc le verbe est resté au singulier, qui montre qu'il y a un énorme rapport. Et un énorme rapport solide entre ceux qui ont été cités. Et donc, ce sont des arguments contre les créatures qui devront obligatoirement attester de cette chose-là. Aussi tous ceux qui témoignent auront la même récompense que telles sont les paroles de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, fin de citation. Également, ils ont différents aspects, différentes qualités qui ne sont pas partagées par les autres. On a par exemple dans un verset, تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Sourate 29, l'araignée, l'ankabout, verset numéro 43. Telles sont les paraboles que nous citons aux gens. Cependant, seuls les savants les comprennent. On a également dans la sourate numéro 3. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Dans la sourate numéro 3, Ali Imran, verset numéro 7, vers la fin. Mais ceux qui sont enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. On a également, mais les gens dotés de science, et ensuite derrière, il a cité les croyants. Et il a commencé par les gens dotés de science dans la Torah numéro 4. Dans un autre verset, بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Ce sont des versets clairs qui sont dans les poitrines de ceux qui ont reçu la science ou le savoir dans un verset. Donc il nous est ordonné de leur obéir, conformément au verset dans la sourate numéro 4. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au messager, à ceux qui détiennent. Et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Sourate numéro 4, les femmes, Al-Nisa, verset numéro 59. Le chef de l'islam, rahimahullah, Ibn Taymiyyah, a dit, les gens détenant l'ordre sont de deux catégories. Les gens de science et les gens qui gouvernent, Al-Ulama et Al-Umara. Et à travers eux, s'ils sont sur la droiture, les gens le seront. Et s'ils sont sur la débauche, les gens le seront également. On a également dans un autre verset, dans la sourate 39, وَالْهَدِي يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Le sens, lui sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sourate 39, Zumar du groupe, verset numéro 9. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui emprunte un chemin recherchant la science, Allah lui facilitera des chemins vers ou un chemin vers le paradis. Et certes les anges abaissent leurs ailes en faveur de celui qui recherche la science religieuse par agrément et satisfaction de ce qu'il entreprend. Et toute chose demande pardon en faveur du savant, même les poissons dans l'eau, même les poissons au fond de l'eau. Et le mérite du savant sur l'adorateur est tel que le mérite de la lune sur de la pleine lune sur le reste des étoiles. Et les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont laissé en héritage ni or ni argent, mais ils ont laissé la science. Celui qui prend de cet héritage aura pris une grande part. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed et Al-Sunan par le compagnon Abu Darda radiyallahu anhu. Ce hadith est d'une grande valeur et il est très répandu justement sur le mérite de la science et du savoir. Et certains ont expliqué dans un livre indépendant le contenu de ce hadith. Dans un livre indépendant, ils ont expliqué le contenu de ce hadith, parmi eux le Hafiz Abdurrahman ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Et certains savants ont dit qu'il n'y a pas de degré. Il n'y a pas de degré au-dessus de celui qui atteint le degré du fait que les anges demandent pardon envers, en sa faveur. Et il y a différentes explications des savants à propos du passage qui dit que les anges abaissent leurs ailes en faveur ou par agrément ou satisfaction de l'étudiant en science. Certains ont dit ce qui est voulu ici c'est la modestie. D'autres ont dit ce qui est voulu c'est qu'il descend auprès de lui et qu'il assiste avec lui. D'autres ont dit c'est une forme de respect. D'autres ont dit c'est il l'aide dans le fait d'atteindre sa destination. Ce pourquoi il est en train degré, etc. Il y a différents fruits qu'on peut tirer de cela. Parmi ces fruits-là, le fait de récolter la bénédiction. Et notamment sur le passage qui traite que même les poissons demandent pardon en faveur de celui qui recherche la science religieuse, il a été cité que les créatures ont été créées pour le bien-être des êtres humains, tels que les poissons par exemple. Et qui c'est qui montre ce qui est licite et illicite à propos des poissons ou autres, ce sont les gens de science. Al-Imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre, Al-I'tisam, que les gens, que le savant a auprès des gens la place, la responsabilité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, éclaircissait, clarifiait aux gens les lois à travers sa parole, à travers ses actes, à travers ses décrets ou ses acceptations silencieuses. Les savants, c'est la même chose. Donc, leur existence est un intérêt pour la nation et leur disparition est une perte et une conséquence, des conséquences qui sont nuisibles. Dans le hadith, il est cité que Allah n'enlèvera pas la science des poitrines des gens, mais il va enlever la science, il va faire disparaître la science en donnant la mort à ceux qui portent cette science. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants, les gens vont prendre des personnes qu'ils vont considérer comme étant des gens de science et qu'ils vont interroger, et ces personnes-là vont répondre à leurs questions sans science et sans connaissance. Ils vont s'égarer eux-mêmes et ils vont égarer les autres. Et les gens qui sont les plus méritoires de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir un visage radieux, un nabara, ce sont les gens de science, ceux qui transmettent les informations de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam. Al-Imam al-Tirmidhi rapporte à ce propos-là le hadith qu'Allah illumine le visage de celui qui entend une information provenant de ma part, c'est-à-dire un hadith prophétique. Il l'entend, il le comprend. Nadarallahu mri'an sami'a minna hadithan tabalagha, et il le transmet aux autres. Et l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a dit le mérite du savant sur yani la comparaison qui a été faite avec la lune ou la pleine lune avec les étoiles, c'est quelque chose qui est apparent et qui est clair. C'est que la lune ou la pleine lune, elle illumine à proximité d'elle et éloignée d'elle également. Contrairement à Al-Kawkab, l'étoile qui illumine que ça, yani à proximité d'elle, et si jamais sa lumière elle s'étend, elle ne s'étend pas bien loin. Telle est la parabole donnée pour Al-Alim qui illumine les gens même s'ils sont loin, alors que Al-Abid l'adorateur, Al-Alim donc c'est le savant, Al-Abid l'adorateur n'illumine que sa propre personne et sa lumière ne s'étend pas très loin de lui. Donc également on voit yani, que l'ignorance comparée à la nuit et que la lumière est comparée à la lumière est comparée par exemple à la journée, etc., à la clarté, et les qualités des savants sont très très nombreuses et le temps ne nous permet pas de nous étaler plus que cela.
دعنا أن ذكرنا صغار أهل العلم وخصائصهم، فمن لوازم ذلك الحذر من التقليل في شأنهم أو الانتقاص من مكانتهم، ومن يفعل ذلك فهو على جرف هار يوشك أن ينهار به إن لم يتب إلى الله جل وعلا من جرمه، لأن إهانة العلماء والإزراء بهم ورميهم بما ليس فيهم ليس إهانة لذواتهم فحسب، بل يتعدى ذلك إلى إهانة ما يحملونه من العلم والدعوة إلى الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربي جل وعلا يقول تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب. أخرجه البخاري. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته. وورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: إذا لم يكن العلماء أولياء الله فمن هم أولياء الله؟ فمن تكلم في العلماء بسوء فهو معرض لموت القلب قبل الآخرة، معرض لموت القلب في الدنيا قبل الآخرة. قال ابن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقي حق تقاته. أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وقل من اشتغل في العلماء بالسلب إلا عرف قبل موته بموت القلب. وقال الإمام القزويني رحمه الله تعالى: لحوم مسمومة، من شمها مرض، ومن أكلها سقم. وروي عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه أحمد والحاكم عن عبادة رضي الله تعالى عنه. فكن على حذر يا عبد الله من هذا المرتع الوخيم. وأما دور العلماء
أحمد رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب الردع الجهمية والزنادقة يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل عماء. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وقال لمتائهم قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أصبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. دور العلماء الدعوة إلى الله جل وعلا والتبليغ وعدم كتمانه، أي عدم كتمان العلم، وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على العلماء. قال تعالى: وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الآية. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهذه الآيات عباد الله وإن كان في أهل الكتاب ففيها تحذير أيضا للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما في أيديهم أو ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلجام من النار. دور العلماء تجديد من صمت واندرس من معالم السنن ونشرها بين الناس ودعوته من العمل بها وتنقية الدين من البدع والمحدثات وتوعية أهلها، وهذا ما يسميها العلم بالتقصية. لا يخفى عليكم أخوتي في الله أنه دخل في الإسلام ما ليس منه، سواء في العقيدة سواء في العبادة سواء في السلوك، فلا بد من تصفية هذا الدين مما علق به، مما علق به، وهذا واجب العلماء. وبحمد الله جل وعلا فقد قام علماء السنة قديما وحديثا بجهود تذكر فتذكر من أجل تصفية هذا الدين مما علق به. فالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري وأئمة الحديث والإمام مسلم لقد قاموا بتزكية السنة من الأحاديث الثقيلة، الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وفي زماننا هذا علماء كبار قاموا بدون عظيمة في بيان العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا أيضا علماء السنة قديما بيّنوا العقيدة الصحيحة من أدلتها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألفوا في العقيدة وفي التوحيد وفي المنهج، وردوا على أهل البدع والأهواء. وكذلك علماء أهل السنة في زماننا هذا قاموا بجهود كبيرة عظيمة جدا، فمنهم من اشتغل بالسنة شيخنا العلامة شيخ المحدث الألباني رحمه الله تعالى، شيخ ربيع نهادي، شيخ مقبل الوادعي، هؤلاء العلماء الأجلاء قاموا بجهود عظيمة في بيان السنة ونصرتها وردوا الشبهات والبدع. أي نعم، ومن العلماء من اجتهد وبين العقيدة الصحيحة. شيخنا العلامة ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ صالح الفوزان، وهذا ليس من باب الحق، في غيرهم بحمد الله جل وعلا، عبد الجابر الشيخ الحيمي، هؤلاء علماء السنة المعروفين بحمد الله جل وعلا، يعني بجهودهم هذا ما يسمى بالتقطيع، وهذا هو دور العلماء. أي نعم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ومن دور العلماء الرجوع إليهم، خاصة عند الفتن والنوازل والشبهات والأمور العصيبة. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فدور العلماء عظيم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. ومن هذا المنطلق عباد الله، يستوجب علينا جميعا أن نقدر علماءنا وأن نرجع إليهم فيما أشكل علينا، فهم المرجع كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا أخوتي في الله، بعد ختام هذه الكلمة، يعني بلغني أمر آلمني كثيرا في أحد الأخوة، اتصل على يعني على أخي لنا في مرسيليا، فقال له بأن عبد الهادي يطعن في الشيخ ربيع، بأن عبد الهادي يطعن في الشيخ ربيع. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أقول البينة على من ادعى، البينة على من ادعى. وأنا أتحدى هذا القائل أن يأتي بكلمة أو نصف كلمة مسموعة أو مقروءة في مقطع الشكرانية، أنا أتحدى من هذا المكان، أنا أتحدى من هذا المكان أن يأتي لي بكلمة أو نصف كلمة في مقطع الشكرانية. والمتصل من مدينة فوزنطون، أخوتي في الله، أنا لست يعني حدادي من أتباع فالح ولا من أتباع المأربي ولا من أتباع الحلبي ولا من أتباع الزهراوي. نحن مع الشيخ حفظه الله تعالى وشفاه ومن كل سوء وقاه، حب من حب وكره من كره. وأقول لهذا القائل: ألا تخشى أن أكون خصمك يوم القيامة بين الله جل وعلا؟ هذه الزور، هذه الكذب. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وكان متكئا فجلس، ألا وقول الزور، ألا وجلس الزور. حتى قال الصحابة: قلنا ليس وسكت، تكذب على خلق الله جل وعلا أن عبد الهادي يطعن في الشيخ ربيع. سبحان الله، عندي أكثر من 10 سنوات ما عندي بالشيخ ربيع، وقرابة 20 سنة ونحن في هذه الدعوة المباركة. سافرت إلى بلاد الإسلام وإلى أي بلاد الإسلام، ما تركت مكانا في فرنسا إلا وذهبت إليه، ما تركت بلد من بلاد المسلمين إلا وذهبت إليه. ذهبنا إلى ألمانيا، وذهبنا إلى إيطاليا، وذهبنا إلى إسبانيا، وذهبنا إلى يعني بروكسل، وذهبنا إلى، وكانت دعوتنا بحمد الله جل وعلا واضحة، الثناء العصر على الشيخ ربيع، وأنصح الشباب أن يلتف حول العلماء، ومن بينهم شيخنا العلامة ربيع حفظه الله تعالى، يقول أطعن الشيخ ربيع. أسأل الله جل وعلا أن يفضحه في الدنيا قبل الآخرة، أسأل الله جل وعلا أن يفضحه في الدنيا قبل الآخرة إن لم يتب، إن لم يتب. أنا ذات مرة كنت في مجلس من المجالس، وكان في خصومة بين الأخوة، وتعالت الأصوات، نعم، فسمعت بعضهم قال الشيخ ربيع ليس بنبي. بعدما انتهينا من المجلس قلت له اتقي، اتقي الله جل وعلا، هذا الكلام لا يقال، هذا الكلام لا يقال، من قال بان الشيخ ربيع نبي؟ هذا لا يقال. قال والله صارت مني هذه الكلمه بدون شعور، كنت في حال فرض، وأستغفر الله وأتوب إليه، وأنا أحب الشيخ ربيع وأعز الشيخ ربيع. ذات مرة اختلفنا في مسألة فقهية، في مسألة فقهية الشيخنا النجمي رحمة الله عليه يعني قال كلاما في هذه المسألة، وكأن الباز والشيخ الألباني قالوا كلاما آخر في هذه المسألة التي اختلفنا فيها. فقلت له أنا أخذ القول من باب، فماذا قال أحدهم؟ قال بأن عبد الهادي يفعل في الشيخ النجمي، عبد الهادي يفعل في الشيخ النجمي. طيب يا أخي العلماء يختلفون، هل مسألة فقهية؟ لأن العلماء علماء السنة لا يختلفون في المنهج ولا يختلفون في العقيدة. وقول من يقول أن الصحابة اختلفوا في العقيدة أو أن العلماء علماء السنة اختلفوا في العقيدة، هذا كلام باطل لا يقبل، هذا كلام باطل لا يقبل، فمتفقون في العقيدة وفي المنهج، لأن العقيدة عقيدة واحدة والمنهج منهج واحد، لكن اختلفوا في الفروع في مسائل. فما نقل؟ قال بأن عبد الهادي يفعل في الشيخ يحيى النجمي رحمه الله تعالى، الشيخ النجمي حالم علماء الأمة، نعم، ولكن إذا خالفنا يعني مسألة فقهية وأخذ بقول الشيخ ابن باز أو بقول الشيخ الألباني فأين هو الحرج؟ كما يقول بعض اليوم أن بعض السبب يطعون في الشيخ محسن عباد، لأن محسن عباد لم يجرع علي حسن، لم يجرع علي حسن الحلبي والمغراوي. نحن نقول الشيخ محسن عباد حال من علماء الأمة، فهو ريحانة المدينة، إمام من أئمة الحديث وفي الله، نحن لا نعطي الشيخ العباد، وإنما نلاقه بقوله في هذه المسألة. علماء السنة أيضا وهم علماء كبار جرحوا علي الحلبي وجرحوا المأربي أبي الحسن المأربي وجرحوا المغراوي ولهم أدلتهم، أي نعم، والجرح المفصل مقدم على التعديل المجمل. شيخ ربيع، شيخ عبيد الجابري، شيخ السعيني وغيره من العلماء جرحوا الحلبي وردوا عليه لأنه أصل أصول الماء أنزل الله بها للسلطان. فنحن إذا لم نأخذ بقول الشيخ محسن عباد. ليس معنى ذلك أن نطعن الشيخ محسن عباد. بعض الشباب اليوم السلفي الله المستعان يتهم الشباب الذي يحذر من علي حسن ومن الحلبي ومن الغراوي لأنهم يطعنون في الشيخ محسن عباد. هذا لا والله. شو عندنا منهج؟ عندنا قواعد، بارك الله فيكم. والشيخ محسن عباد عالم علماء الأمة. ألا يطعن في الشيخ محسن عباد؟ يعني هذا في الحقيقة لا خير فيه. وأقول من هذا المكان أن لم يطعن في الشيخ ربيع أو الشيخ عبيد الجابري ويطعن في علماء الأمة الشيخ صالح فوزان أو غيره فهو مستجاب وضال مبل. فلهذا أنا أقول لهذا الأخ أن يتقي الله جل وعلا، أن يتقي الله، أن يتقي الله، لأن هذا كذب وزور. لبحمد الله جل وعلا دروسي وتعلمون هذا، يعني ما من مجلس، ما من محاضرة، ما من دورة نحضرها إلا ونذكر شيخنا العلامة ربيع إلا بخير، نذكره إلا بخير ونرد على الطاعين فيه. وعندما قال وسيصل إن شاء الله تعالى عنوان الحق أبلج والباطل نجلج، فيه رد على من يتهم الشيخ ربيع بالغلو ويتهمه بالإرجاء ويتهم بأنه فرق بين الشباب السلفي. فهذا المقال إن شاء الله سيصل قريبا. وأكرر وأقول بهذا الأخ أن يتق الله جل وعلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإنه قد ذكر بعض أهل العلم للطالب أن يتحلى بها أدبا مع العلماء ومع الزملاء. والأدب مع العلماء إنما يكون بالدعاء لهم واحترامهم وأخذ العلم منهم والدفع أو عن أعراضهم والدفاع عن أعراضهم. هذا هو احترام العلماء بحق، ليس على طريقة الصوفية الذين يغلون في مشايخهم فيأخذونه من دون الله، ولا على طريق الخوارج الذين يسبون العلماء. فمنهج أهل السنة وسط بين ذاك وذاك. وقد سمعتم ما ذكر ومما نسب كذبا وزورا عن الشيخ محمد بن هادي أو الشيخ أبو عبد الحليم عبد الهادي حفظه الله أنه يطعن في فضيلة العلامة الشيخ ربيع. والله نحن لم نسمع هذا الكلام في بالضبط، قد سمع في مرسيدة ونحن لا ندري عنه سبحان الله. فلعل هذا الكلام أن يكون من جني مارد أو مبتدع صاحب. وعلى كل حال فهي فرية واضحة البطلان، ولا شك أن هذه الدعوة لها مناولون ومخالفون ومعارضون، ولكن أشد الناس ضررا على هذه الدعوة هم من ينتسبون إليها بغير حق، من ينتسبون إليها بغير حق. وهؤلاء يلبسون لباس السلفية ويأتون بهذا اللباس كذبا وزورا، ثم بعد ذلك يدسون في وسط الشباب أشياء يفرقون بها الأمة، ثم ينسبون ذلك لأهل العلم وهم أولى بالتهم من غيرهم. وعلى هذا فإنه لا بد علينا أن لا نلتفت إلى مثل هؤلاء. وكما قال الشاعر: إذا كلمك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن أنت كلمته فقفت عنه وإن تركته كما لن يموت. هذا الواجب الدعم مع السفهاء. ولو التفتنا لكل شديد يكذب على العلماء سبحان الله أضعنا أوقات عظيمة. ولهذا فالحمد لله نحن ما نعرف عن الشيخ عبد الهادي إلا خيرا، والذي جمعنا به هي الحب في الله والتعاون على الخير والدعوة إلى الله والنصح لله ولكتابه ولرسوله. والحمد لله منذ أن جاء إلى بسنسان فتح الله سبحانه وتعالى أبواب خير عظيمة لم تكن من قبل. الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا على ذلك وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل. والحمد لله الجماعة هنا في بسنسان وفي غيرها هي جماعة واحدة كما ذكرنا، وكلهم الحمد لله يحبون الشيخ، وما رأيت منهم واحدا يذكره بشيء، بالعكس إذا غاب الشيخ كلهم ينتظرون مجيئه. فالحمد لله سبحانه وتعالى اهلا وسهلا به بين ابنائه واخوانه. الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا نعمه وان يرزقنا شكرها، ونساله سبحانه وتعالى ان يجيرنا من كل شر وان يعيذنا والمسلمين من كل فتن ومن كل مضل هالك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليك. أنا أعتقد بأن هذا الذي يقول هذا الكلام ليس قصده حب الشخابير، قصده إثارة الفتنة بين السلفيين، إثارة الفتنة بين السلفيين. أي نعم، وليس قصده يعني الحب الشخابير حفظه الله تعالى، هل يريد ضرب الدعوة السلفية، يريد إثارة الفتن بين السلفيين. نعم، بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فلا شك أن ما ذكره أخونا الفاضل الأخ رشيد وعن الصواب والحق، فإن الشيخ لا نعرف عنه هذه المقالة وما جمعنا به إلا الخير الذي ترونه، وهذه الجهود التي نحاول أن نبذلها رغم التقصير الذي يظهر على من يعرف حقيقة اللغة الفرنسية وما يفوتنا من الترجمة، ولكن ما جمعنا إلا تقريب هذه المعاني لكم. فهذه البلاد كما تعلمون بلاد ليست بمسلمة، وليس فيها من أهل العلم من نرجع إليه ممن هو من العلماء الكبار، فإننا نحاول أن نتمسك بمشايخنا الكبار الذين هم معروفون لديكم جميعا، ونحاول عبر الشيخ وفقه الله تعالى أن يزور تلك المدن وأن يلقي ما تيسر من الكلمات النافعة، وأن نقرب لإخواننا وأخواتنا خاصة الذين لا يفهمون منهم اللغة العربية ما تيسر من المعاني، حتى نتمسك جميعا بهذا الكتاب العزيز وبهذه السنة المطهرة وفقا لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، وذكر منها أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا ما أعلمه وهذا ما أدين الله به وأشهد به اليوم، الله تعالى أعلى وأعلم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ونون الله et que toutes les prières et les salutations d'Allah soient faites sur le prophète d'Allah, et j'atteste que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Quant ensuite, nous allons poursuivre inshallah ta'ala la traduction de la deuxième partie de la conférence, walhamdulillah, yani avec ce qui a été évoqué, et que nous traduirons à la fin après la conférence inshallah ta'ala. J'en juge qu'il est les trois frères qui sont à ma droite et dont le Cheikh Hafizahullah Ta'ala avec le frère Rachid et le frère Bachir ont largement dit ce qui devait être dit. Yani lui m'a fait kifaya avec toute la clarté et la suffisance que cela impliquait. Donc on va poursuivre la traduction inshallah ta'ala. Et donc le Cheikh Allah le préserve a dit: après que nous ayons évoqué le rang des savants, après que nous ayons évoqué le rang des savants et leur degré, qui est un degré élevé comme on l'a vu dans la première partie en arabe,
et en français que le prêtre Habibahullah Ta'ala a traduit. Et la deuxième partie de cette conférence, mes chers frères et sœurs, prenez bien garde et soyez concentrés, car elle est très importante. C'est ce que le Cheikh Habibahullah Ta'ala, qu'Allah le préserve, et lui octroie la facilité dans tout bien, il a dit, maintenant nous devons prendre garde. Après que nous ayons évoqué le rang des savants, nous devons prendre garde d'une chose qui est très dangereuse. Autrement dit, nous devons prendre garde de ne pas tomber dedans. Et cette chose est la suivante, c'est l'accusation, le fait d'accuser ou de médire ou de parler en mal sur les gens de science. Nous devons prendre garde de cette chose. Nous devons prendre garde d'accuser les savants, de médire sur eux ou d'amoindrir ou de diminuer de leur haut degré et de leur rang élevé. Et parmi les choses, comme dit le Cheikh Abdallah Ta'ala, wa man yaf'al dhalik, quiconque fait cela, quiconque tombe dans ce péché, quiconque médite sur les savants et critique les savants sans aucun droit et fait des faux témoignages et raconte des choses que les savants en question dont ils parlent n'ont jamais dit. Le Cheikh dit, celui qui tombe dans cela, celui qui fait cela, est certes sur un précipice et il est sur une pente glissante dans laquelle il tombera sans aucun doute s'il ne se repent pas vers Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il risque de se noyer dans ce qu'il fait. S'il ne se repent pas, Allah exalté le Très-Haut, min jurmihi, c'est-à-dire de son crime qu'il commet. Pourquoi ? Parce que la médisance sur les savants et la mauvaise parole sur les savants et le fait de les accuser, l'accusation sur les savants et le fait de témoigner à leurs propos ce qu'ils n'ont pas dit et n'ont pas fait. En réalité, toutes ces choses-là, quand on accuse un savant, ce n'est pas un mal qui atteint le savant directement, en réalité. Mais c'est un mal qui atteint non seulement le savant, mais qui atteint aussi la chose dont il est porteur, c'est-à-dire la science religieuse. Donc celui qui parle mal sur un savant, il n'atteint pas que le savant lui-même, mais pire encore, il atteint ce dont le savant est porteur par la grâce d'Allah dans sa poitrine, c'est-à-dire il atteint la science religieuse d'Allah Azza wa Jal. Et quand on dit qu'il atteint, c'est-à-dire qu'il nuit. Il ne nuit pas seulement au savant, mais il nuit aussi à la science religieuse d'Allah, l'exalté, le Tout-Puissant, le Très-Haut. Et il a été authentifié à propos du prophète, alayhi salatu wa salam, man adani waliya adantuhu bil harb. En ce sens, le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, Allah, l'exalté, a dit, Afwan, c'est un hadith prononcé, que le prophète, alayhi salatu wa salam, a élevé à son créateur, jalla wa ala. Et Allah a donc dit dans le hadith prononcé, Allah dit en ce sens, celui qui fait montre d'hostilité envers un de mes wali, c'est-à-dire envers un de mes amis ou de mes alliés, je lui déclare la guerre. Genre, on le répète une dernière fois, celui qui fait montre d'hostilité, celui qui se montre hostile envers un de mes alliés, dit Allah Azza wa Jalla dans le hadith prononcé, je lui déclare la guerre, qu'Allah nous en préserve. Et donc, mes chers frères, à la suite de ce point très grave, gravissime et très important, et dans ce hadith prononcé que nous venons d'évoquer, en dernier, qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, al-Hafir, qu'Allah lui fasse miséricorde, Al-Murad bi waliyi la, Al-Hafiz qu'Allah lui fasse miséricorde a dit concernant ce hadith qudsi, le sens du mot allié d'Allah, Al-Hafiz ibn Rajab, Afwan Al-Hafiz ibn Rajab a dit qu'Allah lui fasse miséricorde, le sens du mot allié dans ce hadith qudsi, c'est le savant. Le sens dans ce hadith qudsi que nous venons d'entendre de wali, de celui qui est allié d'Allah, en réalité c'est le savant en science religieuse. Et celui qui est asservi à Allah Azza wa Jal, qui est soumis à Allah Azza wa Jal, à la ba'atin, qui est soumis à lui par son obéissance, autrement dit l'obéissance d'Allah Jalla wa Ala. Et il a été aussi authentifié à propos de l'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans la sourate Yunus,
dans le verset numéro 62, dans la Sourate Yunus, dans la 10e Sourate du Saint-Coran, Allah Azza wa Jalla dit, dans le 62e verset, en ce sens, en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ceux qui croient et craignent Allah. Allah Azza wa Jalla a dit à leur propos encore une fois en ce sens, en vérité, les bien-aimés d'Allah, écoutez bien mes chers frères et sœurs, les bien-aimés d'Allah sont à l'abri de toute crainte. En vérité, les bien-aimés d'Allah sont à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit en ce sens. Et donc il a été dit, si les savants ne sont pas les alliés d'Allah, si les savants ne sont pas awliya'ullah, alors qui sont donc les alliés d'Allah? Et donc, celui qui parle et qui nuit sur les, qui nuit les savants et qui parle en eux en mal, qui parle, qui prononce, qui profère de mauvaises paroles concernant les savants, celui-ci s'expose à la mort de son cœur avant la mort de son corps. Celui qui parle en mal sur les savants, que l'âme nous en préserve, s'expose à la réalité, fait mourir son cœur avant que son âme ne sorte de son corps. Et donc son cœur meurt dans ce bas monde avant qu'il meure dans l'au-delà. Ibn Asakir, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait en ce sens, اعلم وفقني الله واياك لمرضاته. Sache qu'Allah me وفقني, qu'Allah me raffirme sur yani son agrément, qu'Allah me raffirme ainsi que toi sur son agrément. وجعلني واياك ممن يتقيه حق تقاته. Et sache aussi qu'Allah me fasse ainsi que toi de ceux qui le craignent réellement. Sache que la viande des savants est une viande empoisonnée. Sache que la viande des savants est une viande empoisonnée. وعاد الله في هتك التاريخ.
Je vous entends pas chier dans cette langue. معلومة يعني la traduction.
Il y a des gens qui s'adonnent, qui parlent sur les ulama, etc. Allah va les détruire. Il va faire tomber le voile à leurs propos, il va les fabriquer. Il va les établir au grand jour.
Et qu'Allah a pour habitude que celui, comme l'a dit le frère, qui parle mal sur les savants sera détruit. Et comme l'a dit le Cheikh, qu'Allah le préserve, le Cheikh Abdul Hadi, il a dit on a vu très très peu de gens qui ont parlé mal sur les savants et qui n'ont pas vu leur cœur mourir. Très peu de gens parlant mal sur les savants et sans voir que leur cœur ne meurt. Autrement dit, la majorité de ceux qui parlent mal sur les savants voient leur cœur mourir. Wa'ayyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et l'imam al-Qazwina, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit en ce sens, le humul masmouma, les viandes empoisonnées, autrement dit celles des savants, le humul masmouma, leur viande, celle des savants, est empoisonnée. Man shammaha marid, quiconque la flaire tombe malade. Quiconque la flaire tombe malade. Et quiconque la mange, comme l'a dit le frère Bachir dans la première traduction, et quiconque la mange, pire encore, la maladie s'intensifie et s'aggrave. Et il a été rapporté à propos de l'imam Ali, que l'agrément d'Allah soit sur lui, il a dit en ce sens, man istakhaffa bil ulama, yani,
celui qui prend la légère.
À la légère, na'am. Celui qui prend à la légère, yani on demande pour être sûr, l'Akhbashir, masha'Allah ta'ala, celui qui prend à la légère le rang des savants, zahabat akhiratuhu. Celui qui prend à la légère le rôle des savants, et les savants eux-mêmes, son au-delà s'est éparpillé. Et dans le hadith concernant le prophète, alayhi salatu wa salam, ليس منا من لم يجل كبيرنا, n'est pas des nôtres, ou bien dans une traduction du sens du hadith, ne fait pas partie des nôtres celui qui ne respecte pas ou qui ne gratifie pas nos anciens, autrement dit nos personnes âgées. Ne fait pas partie des nôtres celui qui ne gratifie pas et ne respecte pas nos personnes âgées. Et écoutez bien, car la suite du hadith et la fin du hadith concerne notre sujet actuel. Et aussi ne fait pas partie des nôtres celui qui n'est pas miséricordieux envers nos petits. Et ne fait pas partie des nôtres
celui qui ne connaît pas ou qui ne donne pas aux savants son vrai droit. Et ne fait pas partie des nôtres celui qui ne connaît pas le droit, le vrai droit, le droit réel du savant, de nos savants. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, comme Al-Hakim, qu'Allah leur fasse miséricorde. Par le compagnon Ubadah radiallahu ta'ala, Allah soit sur lui. Et donc, comme l'a dit le Cheikh, encore une fois, qu'Allah le préserve, Kun ala hadarim ya Abdallah, soit mets-toi en garde, serviteur d'Allah. Sois sur tes gardes, méfie-toi, serviteur d'Allah, de tomber dans cette chose abominable. Et quant au rôle des savants, mes chers frères et sœurs, il est le suivant, comme l'a évoqué le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala avec précision, et cela passe par ce qu'on appelle un tasfiya, qui est la purification ou bien la revivification de la religion, ou bien, pour dire les choses avec des mots familiers, le fait de la filtrer de toutes ces impuretés, comme on va le voir dans peu de temps. Et le rôle des savants, comme l'a dit le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, dawruhum 'azim. Le rôle des savants, sachez mes chers frères et mes chères sœurs, que leur rôle est 'azim, il est magnifique, leur rôle il est très important. Et l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Ar-Rad 'ala al-Jahmiyya wa al-Zanadiqa, dit en ce sens que les savants appellent يدعون من ضل إلى الهدى, que les savants appellent ceux qui sont égarés vers la guidance. Et il démontre le vrai du faux, et ils font revivre le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Kam min qatili iblis qad ahyahu, c'est-à-dire combien sont et nombreux sont les gens que Iblis a tués, c'est-à-dire dont il a tué le cœur et la foi, que les savants ont fait revivre par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et nombreux sont les égareurs perdus profondément dans leur égarement que les savants par la grâce d'Allah ont guidés. Et donc, voyez à quel point leur répercussion est bonne sur la communauté et voyez à quel point ils sont utiles pour cette communauté. Ils démontrent et clarifient à propos du livre d'Allah ce qui a été modifié ou caché ou dissimulé. Et donc le rôle des savants, mes chers frères et mes chers sœurs, il est très très important, et c'est ce rôle comprend aussi al-da'wah wa al-tabligh. Le rôle des savants comprend aussi la prédication, c'est-à-dire le fait d'appeler les gens à Allah et la divulgation du message d'Allah Azza wa Jal. Wa adamu kitmal, c'est-à-dire, et le fait aussi, c'est partie des rôles des savants, de ne pas dissimuler à propos d'Allah et à propos du prophète d'Allah, de ne rien dissimuler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, adamu kitmal il'ilm, le fait de ne rien dissimuler de la science religieuse, de la science d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est aussi le grand contrat, le grand mitard, le contrat lourd que Allah Azza wa Jal a pris. C'est aussi l'engagement qui est lourd qu'Allah Azza wa Jal a pris de la part des savants, qui est le fait de ne rien dissimuler de sa religion et de la divulguer comme elle se doit être divulguée. Et Allah Azza wa Jal dit en ce sens, dans la sourate Ali Imran, dans la troisième sourate, dans le 197e verset, Allah dit en ce sens, Allah prie de ceux auxquels le livre était donné cet engagement. Exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait. Et jusqu'à la suite du verset. Et Allah Azza wa Jal dit aussi, إن الذين يكتمون ما أنزلنا جزاك الله خير, dans le verset numéro 159 dans la deuxième sourate qui est sourate al-Baqara, la sourate d'Abbas, Allah Azza wa Jal dit en ce sens, certes ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ceux qu'Allah a maudit et que les maudisseurs maudissent, qu'Allah nous préserve d'être dans cette situation. Et aussi, mes chers frères, comme l'a dit le Cheikh Hafizahullah Ta'ala à propos de ce verset, même si ce verset concerne directement Ahlul Kitab, les gens du livre, c'est aussi un avertissement de la part d'Allah Azza wa Jal envers ses parents en islam pour ne pas que les atteignent ce qui a atteint les gens du livre. C'est aussi un avertissement pour les parents en islam, c'est aussi un tahrir pour les ulama dans ce verset, même si c'est un tahrir directement aux gens du livre qui étaient avant nous, c'est aussi une mise en garde d'Allah Azza wa Jal pour nos savants actuels qu'ils n'empruntent pas la même voie qu'eux, qu'ils ne dissimulent pas ce qu'ils ont dissimulé. Afin que ces savants-là actuels ne les atteignent pas, ce qui a atteint les gens du livre. Donc c'est aussi une mise en garde pour les savants en islam, afin qu'ils ne soient pas atteints par ce qu'ont été atteints les savants des gens du livre. Et donc, incombe aux savants de divulguer ce qu'ils ont entre les mains de la science religieuse. Incombe aux savants de divulguer ce qu'ils ont par la grâce d'Allah de la science religieuse qui dirige vers les bonnes actions. Et de ne rien dissimuler. Il incombe aux savants de ne rien dissimuler de tout ce qu'ils savent par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et il a aussi été authentifié à propos du prophète alayhi salatu wa salam qu'il a dit en ce sens man su'ila ala ilmin fakatamahu. Autrement dit, le prophète alayhi salatu wa salam a dit en ce sens, quiconque a été questionné à propos d'une science qu'il savait et qu'il a dissimulé, il sera muselé, barakallahu fi, le jour du jugement dernier, il sera muselé avec un muselage de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Et donc le rôle des savants, par conséquent, est très important. Et il est d'autant plus important que leur rôle incombe non seulement de divulguer aux gens et de pratiquer ce qu'ils savent. Et ils doivent, à point de ces savants, revivifier, comme on l'a dit tout à l'heure, et purifier al-din min al-bid'ah, c'est-à-dire ils doivent filtrer toutes ces choses qui sont entrées en islam et qui n'en font pas partie, ils doivent filtrer toutes ces innovations, ces choses nouvelles en islam, de l'islam réel, de l'islam lui-même. Et ils doivent aussi démontrer cela aux gens de cette religion. Les savants doivent montrer aux musulmans les innovations qui sont entrées, et ça c'est ce que nous appelons, ce que les savants appellent at-tasfiya, la purification ou bien la revivification de l'islam. Et comme l'a dit le Cheikh, Allah le préserve, il ne vous est pas caché, serviteur d'Allah et servitrice d'Allah, il ne vous est pas caché que l'islam aujourd'hui est entré en lui, ou sont entrées en lui, beaucoup de choses qui n'en faisaient pas partie et qui n'en font pas partie et qui n'en feront jamais partie. Donc cette religion qui est la nôtre, certes il y a des choses aujourd'hui qui sont entrées dans cette religion et qui n'en font pas partie, que ce soit, comme l'a dit le Cheikh, Allah le préserve, dans la aqida, que ce soit dans le dogme, dans la croyance, ou que ce soit dans le solo, dans les traits de comportement, que ce soit dans la jurisprudence, les diverses sciences de cette religion qui est l'islam, il y a des choses qui sont entrées, des choses nouvelles en religion, qui ne font pas partie de cette religion, et par conséquent, quelle constatation nous faisons à la suite de ce que nous venons de dire? Ce qui est entré en islam et qui n'en fait pas partie, la route d'un intensité, comme l'a dit le Cheikh, qu'Allah le préserve, nous devons absolument, donc les savants se doivent absolument, de purifier ces choses nouvelles qui sont impures de la religion elle-même qui est pure. Et donc, nous devons purifier cette religion, les savants doivent purifier cette religion, de ce qui lui a collé, de ce qui est entré dedans, et ça, encore une fois, ça n'appartient qu'aux savants, c'est le rôle des savants. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, walhamdulillah, et que la louange soit faite à Allah seul, les savants de la Sunna, les savants réels de la Sunna, ont depuis très longtemps, à toutes les époques, ont revivifié cette religion des innovations qui sont entrées. Il y a avec des efforts que nous devons d'évoquer et de les remercier. Pourquoi? Parce que ces savants ont passé toute leur vie, ils ont fait des jours, tout ce qu'à ils ont fait des efforts considérables et énormes pour revivifier cette religion, qui est la religion d'Allah Azza wa Jal. La revivifier, c'est-à-dire la nettoyer de toutes les impuretés. Autrement dit, les impuretés, ce sont ces choses nouvelles qui sont ancrées. عفوا. Et donc, un imam Malik et un imam Al-Shafi'i, qu'Allah leur fasse miséricorde, ainsi que un imam Ahmed, par exemple, ou bien un imam Al-Bukhari, ou bien un imam Muslim, tous ces imams qui sont les imams de les savants spécialisés dans le hadith, et autres encore, tous ces imams que nous venons d'évoquer, Malik, Al-Shafi'i, Ahmed, Bukhari, Muslim, qu'Allah leur fasse à tous miséricorde, ils ont, par la grâce d'Allah, revisité cette religion à travers les recueils qu'ils nous ont laissés derrière eux, avec des hadiths sahih, et ils ont dissocié les paroles du prophète alayhi salatu wasalam qui sont sahihas, qui sont authentiques, des hadiths qui sont barrières, qui sont faibles en authenticité, et ils ont aussi dissocié les hadiths qui sont mauvais, qui sont mensongers, qui sont faussés, qui sont inexistants à la base, et tous ces savants que nous venons d'évoquer, et d'autres encore, comme l'a dit le chef, jusqu'à notre époque aujourd'hui, il y a des savants contemporains, actuels, vivants ou morts, qu'Allah fasse la miséricorde à tous, il y a des savants jusqu'à nos jours, alhamdoulilah, qui prennent ce rôle comme il doit être pris, qui prennent le rôle comme il doit être pris, c'est-à-dire qui revisitent la religion de toutes les innovations qui sont entrées. Et donc, parmi les savants, il y en a qui ont démontré al-aqida sahiha sur laquelle étaient nos vieux prédécesseurs, qu'Allah les agrée, autrement dit nos compagnons. Et donc les savants ont démontré la foi, la aqida, le dogme réel et le dogme correct, juste, que les compagnons avaient, qu'Allah les agrée, dans leur totalité. Et donc les savants, que ce soit sabiqan avant, dans les époques qui nous ont précédés ou aujourd'hui, ils ont, alhamdulillah ta'ala, ils ont clairement clarifié yani l'authenticité du livre d'Allah Azza wa Jal et l'authenticité de la sunna, c'est-à-dire de la ligne de conduite du prophète alayhi salatu wa salam, de la fausse, de celle qui est fausse, et ils nous ont laissé derrière eux des livres, yani des moutournes sur le tawhid à propos de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, ou que ce soit dans le madhhaj, dans la méthodologie du prophète alayhi salatu wa salam, et ses savants ont aussi fait des réponses concernant les gens, des innovateurs, suiveurs de leur passion. Et donc, on va résumer, car le temps nous est très précieux et il est moindre. Donc beaucoup de savants parmi eux jusqu'aujourd'hui, comme le Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala, qui se sont préoccupés de ce rôle-là, de prévenir des gens de l'innovation, etc., du Cheikh Mokbil, qu'Allah lui fasse miséricorde, Rahimahullah Ta'ala, et qui ont répondu aux gens des bid'ahs et des choubahs, aux gens des innovations, aux innovateurs et aux porteurs d'ambiguïté, ils leur ont démontré leurs erreurs, et donc ils ont pris leur rôle à cœur. Et parmi les savants, nombreux sont parmi eux, comme par exemple le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, le Cheikh Al-Uthaymin, Mohamed Ibn Salih Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, et le Cheikh, qu'Allah le préserve et qu'Allah lui octroie la guérison rapide, du Cheikh Fawzan, Yahni Saleh Ibn Fawzan Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, et d'autres savants encore, contemporains, encore vivants ou morts, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. Et ils ont démontré le vrai du faux, et ils ont revisité cette religion de toutes les impuretés qui ont pénétré dans cette religion. Et comme l'a dit le Cheikh, alhamdulillah, jalla wa ala, ces savants-là, ils sont connus, ils sont maroufous, ils sont connus par leurs efforts et par leur science. Et ce rôle, et particulièrement ce que nous venons d'évoquer, c'est ce que nous appelons al-tasfiya. Il y a encore un hadith, mais on va s'arrêter là, inshallah ta'ala. Et je vais simplement, inshallah ta'ala, traduire, si le Cheikh le veut, la parole qu'il a dit à la fin de sa conférence, il nous reste qu'un seul hadith, et on va passer directement à ce que le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a dit après la conférence. Donc ce sont des paroles qui ont été dites en arabe par le frère Rachid, le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, le frère Bachir, qu'Allah les préserve tous, et nous allons traduire ce qui a été dit pour les francophones. En réalité, le Cheikh a dit, après la conférence que je viens de vous donner, il m'est cher de vous dire une chose, mes chers frères et mes chers sœurs, quelque chose qui m'a atteint et qui m'a attristé. Et donc, quelle est cette chose? Cette chose, c'est la suivante, dit le Cheikh, qu'Allah le préserve. Il dit, un frère parmi les frères de Marseille que le Cheikh connaît, yani, un frère parmi les frères de Marseille, il lui est parvenu une parole d'un frère de Besançon. Donc, celui qui a commencé à dire cette chose-là, il est de Besançon. Il a dit que Cheikh Abdelhadi, Hafidhahullah Ta'ala, le Cheikh qui est à notre droite, le Cheikh Abdelhadi de Marseille, a à critiquer, à parler en mal sur le Cheikh Rabir Al-Madkhali. Hafidhahullah Ta'ala. Ils disent, apparemment, quelqu'un de Besançon dit, apparemment, il vient à faire de Marseille, apparemment le Cheikh il a parlé. Mais il n'a pas dit apparemment, il a dit le Cheikh Abdelhadi a parlé en mal sur le Cheikh Rabir. Le Cheikh Abdelhadi a parlé en mal sur le Cheikh Rabir Al-Madkhali, qui est dans l'Arabie Saoudite, que l'on préserve et qui est encore vivant. Et le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il dit, A'oudou Billah, je me réfugie auprès d'Allah. Contre le fait de faire cela, et je me réfugie auprès d'Allah, de ce qui vient d'être entendu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a dit, de ce qui a été dit à son propos. Et le Cheikh, pour résumer ce qu'il a dit, il dit premièrement, mes chers frères et mes chers sœurs, je ne suis pas un adepte de Al-Halabi. Je ne suis pas quelqu'un qui suit Al-Halabi ou les autres, dont les savants ont mis en garde. Al-Abdadi et d'autres, il dit je ne suis pas un de leurs adeptes et un de leurs suiveurs. Premièrement, et personne ne le purifie à la place d'Allah Azza wa Jal, le Cheikh Rabir, qu'Allah le préserve, le Cheikh Abdelhadi dit j'ai une relation étroite, intime avec lui, qui dure depuis environ une dizaine d'années par la grâce d'Allah. Et je suis dans cette prédication à Da'wah Salafiyah, la prédication selon la compréhension des vieux prédécesseurs depuis une vingtaine d'années par la grâce d'Allah. Et donc il dit jamais je n'aurais pu prononcer cette parole-là. Et il a dit, je défie, dans cet endroit même, je défie celui qui a prononcé cette parole de prouver ce qu'il a dit. Et comme l'a dit le Cheikh Allah le Prédère, il incombe à celui qui prétend quelque chose de l'approuver. Il incombe à celui qui prétend quelque chose de l'approuver. Il dit le Cheikh Hamdallah Ta'ala, j'ai voyagé par la grâce d'Allah dans plusieurs villes dans ce pays. Et dans plusieurs pays dans ce continent qui est l'Europe, j'ai été dans des pays musulmans, dans des pays non musulmans. Nombreux sont les endroits et il n'y en a pas un seul que j'ai délaissé. Nombreux sont les endroits que j'ai visités et dans lesquels j'ai fait des conférences comme celle-ci et des oros. Et il dit la première fois et la seule fois que j'ai entendu cette chose, c'est ici à Besançon. Et celui qui a dit cette parole-là, il est de Besançon. Et le chef dit, je demande à Allah Azzawajal qu'il humilie dans ce bas monde avant l'au-delà, s'il ne se repent pas. Et le chef dit encore une fois, je défie cette personne-là qui est en train de dire que j'ai critiqué Cheikh Rabir. En réalité, il a dit, moi je ne suis pas avec le Halabi ou un tel, nous sommes avec le Cheikh Rabir, a dit le Cheikh Abdelhadi, qu'Allah le préserve. Il a dit, nous l'annonçons clairement, nous sommes dans son camp, nous sommes avec Cheikh Rabir et avec les savants de la Sunna qui sont à son exemple, qu'Allah le préserve. Et il défie encore une fois celui qui a prononcé cette parole de l'approuver. Le Cheikh dit qu'il me l'approuve par une seule de mes paroles, qu'il m'apporte une seule de mes paroles ou la moitié d'une de mes paroles, qu'elle soit enregistrée ou témoignée ou écrite, qu'il me prouve ce qu'il prétend, qu'il me prouve que j'ai parlé en mal sur le Cheikh Rabir Habibahullah Ta'ala. Et ensuite, ça c'est un résumé de ce que le Cheikh Habibahullah Ta'ala dit. Ensuite, le frère Rachid, Allah le préserve, a pris la parole dans le même sens pour dire si en réalité nous devions passer du temps à rectifier chaque menteur et chaque faux témoigneur, comme l'a dit le Cheikh Abdallah Ta'ala, ça c'est Shahad al-Zur. C'est un faux témoignage à propos du Cheikh Rabir Abdallah Ta'ala, et à son propos le Cheikh Abdallah dit qu'Allah le préserve. Et le Cheikh a dit, ne crains-tu pas, toi qui prononces cette parole, que ce soit ton disputeur le jour du jugement dernier, ne crains-tu pas de te trouver face à Allah Azza wa Jalla qui te questionne, et que ce soit ton disputeur que je demande mon droit le jour du jugement dernier, ne crains-tu pas pour ton au-delà, pour toutes tes actions, repends-toi donc à Allah. Et le frère Rachid Habdallah Ta'ala a évoqué, il y a parmi le plus important ce qu'il a dit, pour résumer ce qu'il a dit, il a dit si on devait à chaque fois passer du temps à chercher celui qui a dit ça et aller lui corriger, rectifier ce qu'il a dit, si on devait chercher à chaque fois celui qui fait des fitnas pour lui dire ce n'est pas vrai, arrête de faire ceci et cela, il dit on perdrait un temps énorme, un temps phénoménal, on perdrait un temps précieux. Et en réalité, il ne convient pas de s'intéresser à ces gens-là. Du moment que vous savez que c'est une parole, c'est une parole qui est fausse et qui ne se peut pas qu'elle soit vraie, car aucune preuve ne peut l'apporter, il ne convient pas de s'occuper des sorts de cela. Et le frère Bachir a point à ma droite, a continué dans le même sens que le frère Rachid en disant Alhamdulillah, comme l'a dit le frère Rachid aussi, tout ce que nous savons du Cheikh Abdelhadi, et moi je témoigne devant Allah Azza wa Jal, je ne le connais pas depuis de longues années, mais tout ce que nous savons de lui, que ce soit nous-mêmes les frères de Besançon ou les frères d'ailleurs, et même les frères qui ne sont pas de Marseille, nombreux sont d'entre eux qui ont visité le Cheikh Abdelhadi à Marseille, tout ce que nous savons sur le Cheikh, qu'Allah le préserve, ce ne sont que des choses louables et du bien, et qu'Allah fasse que ce Cheikh qui est à notre droite et que le Cheikh Rabir et que tous les savants de la Sunna qu'il les préserve et qu'il nous octroie et que la loi soit par Allah Azzawajal qui nous a octroyé yani des instants tels que ceux-là et des conférences telles que celles-là, et nous demandons à Allah Azzawajal qui nous montre le vrai du faux. Wa sallallahu ala Muhammad wa allahu ala.
بارك الله فيك أحسن الله إليك جزاك الله خير.